tous en pleine forme grâce au Grand Direct de la Santé, Thomas Joubert.
Oui, les Grands Directs de la Santé, c'est l'émission qui vous fait du bien chaque jour entre 11h et midi sur Europe 1 avec notre équipe de spécialistes à votre service pour votre santé, votre bien-être, votre forme. Et aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale sur les questions que tout le monde se pose en matière de santé. On va recevoir dans un instant Jessica Falour. Elle vient de sortir un livre intitulé « Ma Bible des questions santé » aux éditions Le Duc. Un ouvrage qui regroupe justement les 650 questions les plus fréquemment posées dans plus de 40 spécialités, ce qui nous a donné nous aussi envie de nous intéresser à ces questions que tout le monde se pose en matière de santé. On verra avec le docteur Gérald Kierzek, le médecin d'Europe 1, quelles sont les 10 questions que l'on se pose le plus aux urgences. Bonjour Gérald.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ah oui, sur 650 questions, on va essayer de répondre à un petit nombre, 10 questions qu'on pourrait peut-être se poser avant même d'atterrir aux urgences. Peut-être que ça éviterait aussi certaines consultations. Et puis on verra entre la médecine générale, la médecine d'urgence, il ne s'agit pas de faire de l'autodiagnostic, mais les réponses peuvent vous éviter parfois certains séjours inutiles.
Et on verra aussi les questions que l'on se pose en arrivant chez le médecin, chez son médecin généraliste, dans son cabinet avec le docteur Mathieu Calafiore. Bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors quelles sont les questions que vous posent le plus vos patients ?
Eh bien les questions que se posent le plus les patients, c'est savoir si par exemple quand le nez coule, est-ce que c'est une pathologie gravissime ? Parce que quand on regarde sur internet, on risque la mort si on ne prend pas des antibiotiques. Alors on vous expliquera tout ça, je répondrai à toutes ces questions et je pense qu'on peut surtout faire confiance à ces médecins.
Et Isabelle Quenin, spécialiste du bien-être, nous dira elle aussi quelles sont les questions santé, bien-être qu'on peut se poser.
Et oui Thomas, parce que moi je suis pas médecin, 15 années d'études ça calme. Moi je suis du côté des patients, alors pour autant j'ai trouvé plein de bon sens et de conseils dans ce livre, au hasard, quand prendre l'avion après une opération, ou comment ne plus appréhender les prises de sang. Et sachez que ça vous parle.
C'est certain. Anne Cazobon est aussi avec nous à 11h30 pour le journal de la santé.
Oui, on viendra notamment sur cet avion polonais resté au sol à Roissy hier car il n'avait pas payé son amende pour nuisance sonore. Et puis, être un bourreau de travail et non pas un bourreau au travail serait compatible avec une vie de couple heureuse.
Vous écoutez le Grand Direct de la Santé jusqu'à midi sur Europe 1.
Le Grand Direct sur Europe 1.
Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
Un peu de douceur sur Europe 1 avec Lucas Graham et Seven Years, un des tubes de cet été. Restez avec nous, dans un instant on va retrouver notre invité pour cette émission spéciale du Grand Direct de la Santé autour des questions que tout le monde se pose en matière de médecine. Notre invité a écrit un livre intitulé « Ma Bible des questions de santé » et avec nos spécialistes on va donc voir toutes ces questions que les patients ont l'habitude de se poser et puis surtout évidemment vous donner les réponses sur Europe 1. Tout de suite, il est 11h15.
Europe 1. Le Grand Direct de la Santé avec Thomas Joubert. Autour de la table, Anne Cazobon, Isabelle Quenin, Mathieu Calafiore, notre médecin généraliste, le docteur Gérald Kierzek et votre invité Thomas.
Jessica Falour, qui est la fondatrice du site La Santé, surtout un site internet consacré aux questions de santé, et l'auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions Le Duc qui s'appelle Ma Bible des questions santé. Bonjour Jessica Falour.
Bonjour, bonjour Thomas, bonjour tout le monde.
Alors on va tous dire, on s'est connus il y a une vingtaine d'années.
Oui.
Vous étiez à l'époque animatrice de radio. Aujourd'hui, on vous retrouve en tant que spécialiste de santé, auteur de cet ouvrage, Ma Bible des questions de santé. Qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de ces questions ?
Déjà, il y a 20 ans, je bossais déjà avec un doc, avec un médecin, où on répondait aux questions plutôt
sexo, à la radio, exactement.
Santé, et ça. Et en fait, il y a 3 ans, qu'est-ce qui m'a amené à lancer ce site ? Tout simplement la vie. Du jour au lendemain, de manière totalement fortuite, par hasard, on m'a découvert une tumeur au foie, alors que j'allais passer une écho mammaire, donc vraiment le truc qui n'a rien à voir.
Vous avez laissé ça un petit peu par hasard à la suite d'examens médicaux?
Totalement par hasard, j'avais pas de symptômes, j'étais en pleine forme, voilà. Et là, du jour au lendemain, on me dit, vous avez une tumeur au foie de 6,5 cm. Donc moi, étant totalement phobique
vous
et hypochondriaque,
c'était
il y a 3 ans, donc j'avais 35 ans. Et donc, c'était vraiment absolument incroyable, quoi. Donc, et puis, étant surtout phobique, j'ai passé mes nuits sur Internet à chercher de la doc, à comprendre pourquoi, effectivement.
C'est le réflexe qu'on a tous, hein, et on le verra tout à l'heure chez les patients du docteur Calafiore.
C'est hyper flippant, en fait, hein, parce qu'on trouve des trucs, que des trucs horribles. Parce que les gens qui vont bien, forcément, ils vont pas sur Internet pour dire qu'ils vont bien. Et donc, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à enquêter sur cette histoire de tumeur. à consulter beaucoup, beaucoup de spécialistes, beaucoup d'hyper spécialistes, des chirurgiens. En plus, il y a une errance diagnostique, donc les médecins entre eux n'étaient pas d'accord. Est-ce qu'il faut opérer d'urgence? Est-ce qu'il ne faut surtout pas opérer? Est-ce que je vais mourir demain? Ou mais non, pas du tout. Et j'ai vécu avec ça pendant un an et demi.
On était là, les diagnostics allaient jusqu'à un décès prématuré, jusqu'à une guérison.
Jusqu'à ça pouvait être à la fois.
Donc vous avez été dans le feu total.
Un carcinome, donc un cancer du foie, un adénome qui pouvait dégénérer en cancer du foie et aussi provoquer une hémorragie interne du foie, donc effectivement avoir disparaître du jour au lendemain en très très peu de temps, quelques minutes, ou bien par chance, ce que j'ai eu, une HNF, donc une hyperplasie nodulaire focale, où là effectivement il ne faut surtout pas opérer, donc je m'en sors bien.
Et vous êtes en pleine forme aujourd'hui.
Mais je suis en super forme, j'ai toujours la tumeur puisqu'il faut pas l'opérer, on surveille, etc. Mais tout va bien. Donc tout ça pour dire que pendant un certain temps, un an et demi quand même, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet, je me suis inquiétée, je prévenais mes proches que du jour au lendemain je pouvais mourir, etc. Et ça a été dur pour tout le monde, hyper éprouvant. Et voilà. Et donc je me suis dit mais c'est incroyable quand même que sur Internet je trouve que des trucs horribles. Et pas un vrai site de médecins où
parce
je peux
poser qu'en fait, ce sont énormément de sites participatifs avec des forums où chacun communique, raconte son expérience, mais qui n'est pas forcément lié à des services médicaux, ça c'est sûr.
C'est ça, c'est ça. Et je me suis dit, mais ce site, je le cherche, je le trouve pas, et ben je vais le créer.
Et donc ça s'appelle La Santé Surtout. Et à partir de ce site, hein, où là aussi on a posé beaucoup de questions, les internautes ont posé beaucoup de questions, vous avez donc eu l'idée de ce livre, Ma Bible, des questions en santé. Alors vous balayez tous les sujets, absolument tous les sujets.
Ah oui, il y a 40 spécialités. Donc plein de spécialistes, de chirurgiens, d'hyper spécialistes. On apprend plein de choses, on parle.
C'est un gros pavé, hein, il y a 665 pages.
Ouais, c'est ça. Et beaucoup, beaucoup de spécialistes, hein, 55 médecins, deux avocats aussi en droit de la santé, parce que c'est hyper bien aussi de connaître ses droits dans le domaine médical. Donc vraiment, on va du plus léger au plus sérieux. Il y a beaucoup de spécialités, donc allergologie, cancérologie, dermato, gynéco, médecine de sport, médecine d'urgence, évidemment, avec Gérald. Et puis, oui, il y a 650 questions. Donc, il y a à la fois les questions qu'on pose souvent à son médecin, et puis aussi les questions, et ça c'est très intéressant, les questions qu'on n'ose pas poser son médecin, parce qu'elles sont trop intime, parce que c'est un peu gênant, parfois à tort d'ailleurs, de parler d'hémorroïdes ou de parler de problèmes de couple, quand le médecin connaît aussi la femme ou le mari, donc parfois c'est délicat, et ben là justement, les internautes peuvent poser, et les lecteurs peuvent poser toutes leurs questions sans tabou, sans gêne, aux 55 médecins qui répondent sur le site.
Et donc les réponses sont évidemment dans le livre. Alors nous ce matin avec notre équipe de spécialistes, le docteur Gérald Kirzek, Isabelle Quenin et le docteur Calafio, on va nous aussi essayer de répondre à ces questions que tout le monde se pose, les questions que tout le monde se pose aux urgences, docteur Gérald Kirzek. Hein, je rappelle que vous êtes médecin urgentiste. Ils ont peur de quoi en fait les patients quand ils arrivent vous voir ?
Ils se posent pas la question. En tout cas, comme ils ont pas trouvé la réponse pertinente, ils atterrissent très souvent aux urgences parce que justement, ils n'ont pas eu la réponse. Ils ont fait comme Jessica, ils sont allés sur Internet, ils ont tapé mal à la poitrine, infarctus. Bah forcément, quand vous tapez les deux mots clés mal à la poitrine, infarctus, bah vous allez avoir des chiffres de mortalité, l'infarctus du myocarde, etc.
Donc, vous filez aux urgences.
Donc les gens filent aux urgences. Et c'est vrai que Internet et Jessica l'a dit, quand on emploie le mot comme tumeur, par exemple, bah ça fait peur le mot tumeur. C'est-à-dire tumeur, on pense pas que tumeur, ça peut être une tumeur bénigne qu'on va tout simplement surveiller.
Donc, oui, Jessica nous a dit, vous vivez encore avec, hein.
Ah oui, tout à fait, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut surtout pas l'opérer.
Parce que c'est une tumeur bénigne. L'autre chose, c'est que les urgences, c'est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est aussi la solution de facilité pour les gens avec cette angoisse et cette anxiété. Moi, je fais pas partie des médecins urgentistes qui disent, vous venez pour rien aux urgences. On ne vient jamais pour rien aux urgences parce que on vient aux urgences parce que on a une anxiété, on a une urgence qui est soit une urgence réelle, et là, on a bien fait de venir aux urgences, mais on a parfois simplement une urgence ressentie. Le problème, c'est qu'entre l'urgence réelle et l'urgence ressentie, bah, c'est pas au patient de faire la différence parce que c'est pas au patient de s'auto-diagnostiquer. Donc les gens vont aller regarder sur Internet. Très souvent, les forums, il y a un côté anxiogène. S'ils ont la chance d'avoir leur médecin traitant qui est disponible, qui est ouvert, qui a une plage d'urgence, etc., ils vont aller dans un premier temps chez leur médecin généraliste. Mais malheureusement, bah, parfois, il faut vous appelez votre médecin généraliste, il est pas disponible, il n'y a pas de plage d'urgence, il est en vacances, il n'y a pas de remplaçant et on sait la difficulté de la permanence des soins, eh bien le seul recours finalement, c'est le service d'urgence. Et donc les gens arrivent avec des questions qui sont parfois des questions un peu naïves. La première des questions, c'est pourquoi on attend si longtemps d'ailleurs aux urgences.
C'est la question que j'allais vous poser.
Parce que quand ils arrivent aux urgences et qu'ils voient parfois il y a la salle d'attente qui est pleine forcément parce qu'il y a d'autres gens qui se sont posés aussi la question, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Bah dans le doute, on s'abstient pas et on vient aux urgences. Et vraiment le message, c'est dans le doute, si vous n'avez pas votre médecin traitant au téléphone, si vous ne pouvez pas avoir le 15, parce que le 15 c'est quand même le moyen d'avoir un conseil médical 24 heures sur 24, c'est pas pas uniquement l'ambulance du SAMU qu'on va vous envoyer chez vous, c'est un
ouais,
médecin.
Ça peut être simplement du conseil.
24 heures sur 24.
Pourquoi c'est si long?
Alors, ils arrivent quand même aux urgences. Pourquoi c'est si long? Bah, peut-être parce qu'ils n'ont pas appelé le 15. Donc il vaut mieux appeler le 15 dans un premier temps, il va vous orienter.
Moi, je vais vous dire Gérald, on a l'impression que c'est si long parce que il y a pas assez de médecins ou que vous occupez pas
non,
assez bien des patients.
Non, on a l'impression surtout quand il s'agit de la salle d'attente et qu'on regarde le voisin d'à côté, on se dit bah lui il vient pour rien mais moi je devrais passer avant lui. C'est surtout ça qui se passe.
Et chacun est dans ce rôle-là.
Alors que un malaise qui peut être très impressionnant, vous avez l'impression d'avoir une angoisse, vous avez l'impression que vous c'est grave etc. Alors qu'à contrario, bah à côté la petite dame à côté, elle a pas de symptômes très impressionnants, peut-être qu'elle fait réellement un infarctus. Mmh. Et c'est toute la difficulté de la médecine d'urgence et c'est toute la dangerosité de faire un autodiagnostic. Donc pas d'autodiagnostic à la maison, on appelle le 15, on appelle son médecin traitant et en fonction, on va vous orienter aux urgences. Et aux urgences, pourquoi c'est si long? Bah parce que effectivement, il y a du monde, il n'y a pas toujours des lits d'hospitalisation derrière, le plateau technique quand il faut faire un scanner, quand il faut faire des examens complémentaires, parfois ça prend du temps, pas uniquement parce qu'il n'y a pas assez de techniciens labo. Mmh. Je vous prends juste un exemple, on a parlé de l'infarctus. Pour faire le diagnostic d'un infarctus du myocarde, donc une artère du cœur qui se bouche, on vous fait un dosage, une prise de sang qui s'appelle la troponine. Cette troponine, on est capable de la doser, mais on est capable de dire, elle s'élève ou elle ne s'élève pas, c'est-à-dire votre organisme sécrète cette troponine, simplement au bout de 6 heures après le début des symptômes. Ça veut dire que si vous venez au bout de la première heure, et il faut venir tout de suite, hein, bien sûr, si vous avez une douleur thoracique, mais on ne pourra pas faire le diagnostic de certitude ou au contraire éliminer ce diagnostic sans avoir attendu ces fameuses 5 ou 6 heures. Voilà pourquoi
donc
on va vous
long.
Faire une première prise de sang, et puis on va attendre 5 ou 6 heures, non pas parce que y a pas de personnel etc, mais parce que il faut que votre organisme puisse sécréter cette troponine et donc on fera le deuxième dosage à 5 heures ou 6 heures. Et puis après il y a des dysfonctionnements organisationnels, il y a un manque de lit, il y a plein de choses qui fait que tout ça ça fait des minutes voire des heures qui peuvent s'accumuler.
Isabelle Canin,
on a l'impression aussi que vous souffrez non seulement des gens qui vont regarder sur internet, mais que pour le coup des urgences et de l'hôpital vous êtes aussi victime de l'image qu'on donne dans les séries télé, parce que bien sûr là on est dans la mise en scène. Mais d'ailleurs Gérald lui ressemble pas mal. On est dans la mise en scène de l'urgence et c'est vrai quand les gens arrivent et ils voient que c'est pas urgence et que du coup on est un peu tout seul, on attend un peu.
Ah oui,
et je pense que cette image là
ça, je vous confirme, les séries d'urgence françaises, ça ferait une très mauvaise série télé, hein. Mais on est plus proche de Derrick en fait.
Mais peut-être que
il y a eu des séries sur les services d'urgence français.
Mais c'est peut-être pour ça que les gens se plaignent en disant c'est long, il se passe rien, il y a pas de rythme.
Moi j'ai un souvenir de quand j'étais de garde, donc encore interne il y a 10 ans, où un jour un patient m'interpelle dans les urgences en disant mais pourquoi vous courez pas?
C'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser. Les urgences normalement
ça irait pas plus vite. Non mais Isabelle a raison, ça, quand il y a l'image d'urgence à la télé. Alors ce qu'il faut préciser c'est qu'en France c'est pas du tout comme ça, parce qu'aux États-Unis le système est complètement différent. Vous appelez le 911, on vous met dans une ambulance et on vous emmène dans un service d'urgence grave ou pas grave. En France, il y a justement ce SAMU Centre 15 qui permet de trier en amont et donc les patients les plus graves vont aller directement en cardiologie, directement en réanimation, directement au bloc opératoire et pas forcément dans les services d'urgence. Donc voilà pourquoi ça ne court pas dans les services d'urgence. Parfois ça court, bien sûr, mais c'est pas ça qui est responsable de l'attente.
Jessica Fallour, vous avez eu le réflexe d'aller aux urgences à un moment quand vous avez rencontré vos problèmes médicaux?
Bah non, parce qu'en fait moi ça s'est passé vraiment sur le moment. J'étais déjà avec un médecin en fait quand je l'ai découvert, vu qu'il me faisait ma fameuse écho mammaire et qu'il est juste descendu un petit peu plus bas en fait. Hein, et voilà.
Il est descendu un peu plus bas. Mais pourquoi est-il descendu un peu plus bas?
Oui c'est ça.
C'est ce qu'on appelle un incidentalome, c'est-à-dire qu'on découvre ça de manière incidentale, de manière hasardeuse. On fait un examen, on vient pour un examen, et puis parce que le radiologue est un peu consciencieux, il va regarder d'autres organes on tombe sur quelque chose. Et le problème c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est la vraie question.
C'est ça. Et donc pour le coup je suis allée non pas aux urgences, mais il a appelé directement l'hôpital et dès le lendemain matin j'étais à l'hôpital.
Vous avez été hospitalisée dès le lendemain?
J'ai été hospitalisée, oui, pour faire des examens, IRM et voilà. Donc
alors une question encore qu'on se pose à propos des urgences, docteur Kirzek, notamment quand on a des enfants, est-ce qu'on doit filer aux urgences pour un nez qui coule, une trop forte fièvre? Est-ce que pour en ce qui concerne les enfants c'est aussi important d'aller aux urgences?
Alors, c'est aussi important, c'est même plus important, notamment pour les tout petits, parce que c'est vrai que les tout petits, ils se plaignent pas, ils peuvent pas dire j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, etc. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que le bon réflexe, c'est soit il y a des signes vraiment de gravité, d'alerte, c'est-à-dire que l'enfant a un comportement qui est anormal, il a une très forte fièvre, plus de 40, plus de 41, il a un comportement neurologique qui va pas bien, où il a vraiment, il est vraiment pas comme d'habitude. Si on n'a pas très rapidement son médecin traitant ou son pédiatre, je crois qu'on ne peut pas reprocher aux gens d'aller aux urgences. Il vaut mieux aller aux urgences. encore une fois, passer un coup de fil au 15, parce que vraiment, ça peut être une plateforme d'orientation extrêmement intéressante. Mais il ne faut pas traîner, notamment si c'est un tout petit. C'est pareil à l'autre âge extrême de la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fragilisé, qui a une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, il faut pas trop perdre de temps non plus.
Alors, une question aussi qu'on se pose souvent, pourquoi y a-t-il autant de gens ivres aux urgences dans les patients? Dans les patients, hein, pas chez les médecins.
Il y a des gens ivres. Bah, on sait que tous les jeudis soirs, les vendredis soirs, les samedis soirs, nous on a même doublé les gardes parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui sont ivres. On dit ils sont ivres, ils n'ont rien à faire aux urgences. C'est que l'ivresse, ça peut aller jusqu'au coma éthylique. Vous êtes obligé d'aller en réanimation. Vous avez des gens qui décèdent à cause de ce coma éthylique. Donc c'est pas une aberration de les surveiller. C'est une vraie surveillance médicale.
Mais des fois, on a l'impression que les services uniquement... de pompiers ou de police les amènent aux urgences un petit peu pour s'en débarrasser.
Mais oui, mais parce que les pompiers ils les mettent dans les ambulances et puis après faut bien les mettre quelque part. Donc soit c'est la police et c'est ce qu'on appelle l'ivresse publique manifeste, et je rappelle que le code de la santé publique interdit d'être bourré dans la rue, donc on ne peut pas marcher, même si on n'est pas au volant, on ne peut pas marcher en état d'ébriété. Donc la police va vous interpeller et il faut qu'il y ait un examen médical, parce que ce qu'on peut appeler une ivresse, on va dire c'est évident, il a bu, etc. Et puis parfois on tombe sur des choses, on fait un examen neurologique, on le surveille, il y a un hématome intracrânien par exemple, ou il y a un comportement qui est un comportement ébrieux, et en fait c'est pas du tout un comportement d'ivresse, mais c'était un syndrome neurologique. Donc il faut d'abord un examen médical. Et puis après, en fonction de la profondeur et de la gravité de cette ivresse, il y a une surveillance et encore une fois, il y a des gens qui se retrouvent en réanimation, donc c'est un vrai problème médical. Donc à partir du moment où vous êtes en état d'ivresse, soit vous avez un tout petit peu bu, vous êtes chez vous, vous allez vous reposer, mais dès qu'il y a un stade un peu plus avancé de coma, ça justifie totalement une prise en charge aux urgences.
Voilà donc les questions que tout le monde se pose dans les services d'urgence. On vous propose une émission spéciale ce matin sur Europe 1 autour de ces questions que tout le monde se pose en matière de santé, à l'occasion de la sortie du livre Ma Bible des questions santé de Jessica Falour, qui est avec nous. Vous restez avec nous jusqu'à midi, Jessica.
Avec grand plaisir.
C'est paru aux éditions Le Duc. Il est 11h30 sur Europe 1. On passe au journal de la santé avec Anne Cazobon.
Un nouveau rapport autour de la consommation du cannabis propose d'alléger les sanctions et de privilégier les contraventions. En Italie, un projet de loi s'en prend aux parents qui choisissent un mode d'alimentation végétalien. Lire des livres permettrait de vivre plus longtemps, sans oublier le chiffre du jour.
Et on commence par cette première en France dans la lutte contre les nuisances sonores nocturnes.
Mais vous avez peut-être déjà entendu parler de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Depuis sa création en 1999, l'autorité a instruit pas moins de 7600 dossiers et infligé 5600 amendes à près d'un millier de compagnies aériennes. Amendes dont ne s'était visiblement pas acquittée la compagnie polonaise Hunter Air. Hier, l'un de ses avions de ligne a été immobilisé au sol par un huissier pendant 5 heures sur le tarmac de Roissy-Charles de Gaulle. Une première dans la lutte contre les nuisances sonores nocturnes, motif, la société n'avait pas payé 1 100 000 euros d'amende pour une infraction constatée plus de 80 fois entre 2013 et 2014.
En Italie, le végétalisme de plus en plus dans le collimateur.
Oui, c'est peu de le dire, les parents italiens qui souhaitent faire suivre un mode d'alimentation végétalien à leurs enfants risqueront la prison. C'est l'idée d'un projet de loi déposé par une députée conservatrice, Elvira Savino, qui s'en prend donc aux parents qui ont choisi de nourrir leurs enfants sans viande, ni poisson, ni aucun produit d'origine animale, comme les œufs, le fromage ou le lait. Si le projet d'Elvira Savino était voté, les parents pourraient encourir jusqu'à 2 ans de prison. À l'origine de cette proposition de texte, entre autres, l'hospitalisation de 4 enfants qui suivaient un régime vegan pour malnutrition.
C'est un rapport qui dort sur le bureau des ministres depuis des mois. La politique française de lutte contre le cannabis est inefficace.
Oui, un rapport dont Le Monde dévoile les contours. Il ne s'agit pas de légaliser la consommation de cannabis, mais d'alléger les sanctions, puisque les auteurs du rapport constatent qu'elles ne sont jamais appliquées. Ils proposent à la place de frapper au portefeuille avec des contraventions. Pierre Herbulot pour Europe 1.
Aujourd'hui, la loi prévoit pour un consommateur de drogue, pas forcément du cannabis, jusqu'à 1 an de prison et 3 750 euros d'amende. Mais ça engorge les tribunaux, alors dans les faits, cette peine très lourde n'est presque jamais totalement appliquée. En 2014, 170 000 personnes sont interpellées pour usage de produits stupéfiants. Seulement 150 d'entre elles, les plus grands récidivistes, sont effectivement emprisonnés. Alors l'idée pour Daniel Jourdain, à la tête du groupe qui a rédigé le rapport, c'est de proposer une peine plus faible mais qui serait mieux appliquée. Une simple contravention comprise entre 200 et 300 euros.
Une amende, ça permet, entre guillemets, de frapper au portefeuille et donc de décourager l'usage. C'est pas pour faire de l'argent, c'est vraiment pour décourager les consommations, mais ça n'est pas qu'une réponse pénale, c'est aussi renforcer la prévention, parce que je vous assure que ça inquiète notamment beaucoup les parents de voir les consommations, notamment de leurs jeunes.
Et puis l'autre logique du rapport, c'est de soulager la machine judiciaire, les forces de l'ordre, ce serait elle qui donnerait directement les amendes. plus simple que les longues procédures actuelles. Les policiers et gendarmes y consacrent chaque année 1 million d'heures de travail.
Pierre Herbulot pour Europe 1. Lire des livres permettrait de vivre plus longtemps.
Oui, mais vraiment plus longtemps. Si l'on en croit cette étude menée par des scientifiques de Yale, les personnes qui lisent plus de 3h30 chaque jour augmenteraient leur espérance de vie de 23% en moyenne, soit environ 2 ans. Ceux qui lisent au moins 3h30 par semaine auraient, eux, 17% de risque en moins de mourir dans les 12 années à venir, comparé à des non-lecteurs. Fort de ces résultats, les chercheurs souhaitent désormais comparer différentes versions d'un même ouvrage, classique, audio ou électronique, et son impact sur la santé. Quoi qu'il en soit, sur la plage, dans le métro ou le soir au lit, lire serait donc excellent pour la santé.
Être un bourreau de travail ne nuit pas à la vie de couple.
Oh. Alors comme vous êtes bilingue, work, ça veut dire quoi?
Travail.
Ben voilà.
Je parle Rihanna couramment.
Votre conjoint passe de longues journées au bureau, ce qui par définition réduit le temps qu'il ou elle passe avec vous, et vous craignez que cela ne pèse sur votre couple et le mène peut-être à sa perte. Pas si sûr, selon cette nouvelle étude qui suggère que l'on peut travailler beaucoup et être heureux en couple. Les résultats montrent que ceux qui ont tendance à abattre plus de 9 heures de travail chaque jour parviennent tout à fait à concilier leur occupation professionnelle avec leur vie de couple, et ce sans que cela ne nuise à leur bonheur conjugal. L'étude suggère que les accros au travail seraient même moins concernés par les disputes de couple, préférant se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire profiter de moments passés à deux. Ce seraient également des partenaires bien plus à l'écoute. Un couple épanoui et un emploi du temps professionnel chargé ne sont donc pas incompatibles.
On termine par le chiffre du jour.
3 comme les 3 amis auxquels vous montrerez peut-être, sûrement, les textos et sextos envoyés par lettre chère. Oui, envoyer un message coquin n'est pas sans risque. D'après une étude américaine, ces SMS à caractère sexuel, envoyés principalement dans l'intimité du couple, seraient montrés en moyenne à 3 amis. Voilà, maintenant vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.
On a une différence entre filles et garçons, de savoir qui fait ça plus ou pas? Non,
non, après, c'était générique.
Ouais, ouais, très bien. Pourquoi j'ai tendance à penser que les filles vont
jamais
se montrer entre elles? Non, jamais.
Vous faites pas ça, jamais. Déjà, il faudrait que je reçoive des sextos déjà pour commencer.
Ok, on va prévenir votre compagnon.
Prenez-moi
votre portable, je vais vous en envoyer un.
Coquin. Le grand direct il m'a troublé, voilà, de la santé. Avec le docteur Gérald de Kirzec, le docteur Mathieu Calafiore, Isabelle Quenin et Anne Cazobon. Et votre invité, Thomas Joubert.
Ça y est, vous avez un message, Sophie, faites attention. Notre invité ce matin, Jessica Falour, auteur du livre Ma Bible des questions de santé aux éditions Le Duc. Je rappelle que Jessica, vous avez donc compilé toutes les questions que se posent le plus les internautes de votre site. La santé surtout, ça donne un énorme livre de 635 pages qui répertorie toutes les catégories en matière de santé. Alors on a quelques exemples. Les gens se posent beaucoup de questions à propos de la prise de sang.
Oui, ça c'est la question qu'on nous pose le plus sur le site, c'est incroyable. On nous dit souvent, j'ai un gros bleu douloureux, ou bien j'ai une boule après la prise de sang, quelques minutes ou quelques heures. Et donc, effectivement, on a un biologiste, le docteur Mathieu Kuentz, qui répond régulièrement à cette question. Alors, je vais vous faire un petit récap en gros de ce qu'il nous dit, et surtout de ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir ce bleu douloureux, parce qu'il y a plein de trucs qui sont évitables. Par exemple, avant le prélèvement, ou plutôt après le prélèvement, faut bien compresser, en fait. Souvent, on appuie juste une seconde le petit pansement.
Oui, on nous met un petit pansement qui tient même pas,
voilà, avec du sparadrap. On n'y fait pas attention. Et là, faut bien compresser 1 à 2 minutes et beaucoup plus longtemps si on est sous anticoagulant jusqu'à la fin du saignement.
Et la petite boule bleue, c'est normal, du coup?
Et la petite boule bleue. Alors, en fait, il y a les ecchymoses et il y a les hématomes. On a 2 médecins, là, qui sont là. Donc, normalement,
ils devraient... Vous parlez sous leur contrôle.
Attention, on est en train de regarder.
Non, mais justement. Et donc, c'est pas tout à fait pareil. En gros, l'ecchymose, c'est le bleu, c'est ça. Et puis l'hématome, c'est la boule. Donc, on traite pas de manière tout à fait similaire, en gros. Hein,
mais
c'est
leur
ça.
Effet, c'est le bon, c'est de comprimer, effectivement. Parce qu'on a fait un trou dans une veine. Donc, s'il y a un trou dans une veine, si vous mettez pas, il n'y a pas de rustine. La rustine, elle va être naturelle. Il faut certaines minutes pour que les plaquettes viennent colmater et faire cette rustine. Et en attendant, il faut appuyer, tout simplement. Et il y a des gens qui ont un capital veineux qui est fragile, des veines qui vont éclater. C'est pas de la faute de l'infirmière ou du technicien de labo ou du médecin qui prélève. Il y a des gens qui ont des veines plus fragiles. Ça fait des hématomes un peu plus fréquemment, donc on appuie dessus, puis les anticoagulants, vous l'avez dit.
Oui, puis il y a plein d'autres petites choses aussi à savoir, des erreurs qu'on fait tous, par exemple ne pas faire d'exercice physique ou porter des poids lourds dans l'heure qui suit le prélèvement.
Ouais, j'en ai un peu affaibli, oui.
Pour les femmes aussi, on a tendance à porter notre sac au creux du coude dès qu'on sort du labo.
Là où on a fait la prise de sang.
Ouais, exactement. Et ça, c'est clairement un truc qui peut faire effectivement un énorme bleu.
Pareil.
Mais on le sait pas forcément.
Ouais. Pareil, juste après la prise de sang, certains patients ont tendance à plier le coude comme ça et se dire, ça comprime suffisamment. Non, il faut vraiment comprimer en appuyant avec les doigts pendant 2 à 3 minutes.
D'accord. Alors, beaucoup de questions aussi sur la tension.
Oui, pour bien prendre sa tension. Comment fait-on pour bien prendre sa tension? Les gens sont assez inquiets. Hein. Ils se demandent toujours si quand ils prennent leur tension, si c'est le bon résultat, si c'est juste, etc. Donc en fait,
des gens, c'est même pas à quoi correspondent les chiffres. En fait, on est tout le temps 12-2, 14-8.
12-2, c'est pas bon.
12-2, c'était un exemple.
C'est pas 12,2. D'ailleurs, c'est vrai que c'est pas bon. 12-2. Le premier chiffre 12, c'est la tension systolique. C'est la tension maximale. C'est le cœur qui se contracte et qui va envoyer le sang dans les artères et ça va irriguer tout l'organisme. Donc c'est la pression du cœur maximal. Et le cœur, bah, il se relâche, hein, il fait poum, ta, et il se relâche et au niveau du ta.
Comment il fait le cœur?
Il fait oui, poum, ta, on dit ça parce qu'à l'oreille, à l'auscultation, ça fait ce bruit-là. Et il va se relâcher. Quand il se relâche, bah, il reste une tension à l'intérieur des vaisseaux. C'est ce qu'on appelle la tension diastolique. Et c'est le deuxième chiffre. Donc quand on vous dit 12, 6, par exemple, c'est 12 sur 6. 12, c'est la pression maximale et 6, c'est la pression minimale,
voilà,
la diastolique.
Et, 12,6.
Et quand on est au-dessus de 14 sur 9, soit supérieur à 14, soit supérieur à 9, parce que le deuxième chiffre est important aussi, eh bien ça peut être l'hypertension artérielle. Mais là aussi, quand on prend sa tension artérielle, faut pas le faire après être revenu des courses où vous êtes un peu essoufflé. Il faut 20 minutes de repos, allongé tranquillement. Ouais. Et c'est pas sur un chiffre qu'on fait le diagnostic d'hypertension artérielle.
La règle des trois, c'est ça?
Exactement.
C'est-à-dire 3 prises consécutives le matin, le soir.
Pendant 3 jours.
Et ouais, là, ça fait une bonne moyenne.
C'est ce qu'on appelle l'automesure tensionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui viennent en cabinet de médecine générale prendre leur tension. La tension est un peu élevée, mais c'est l'effet blouse blanche. C'est le fait de venir chez le médecin qui fait un
peu
peur et
ça
stresse un peu et la tension monte. Et donc on conseille, et la Sécurité sociale fournit justement des appareils d'automesure aux médecins généralistes. On donne un appareil d'automesure au patient et on lui conseille la règle des trois. Et chez lui, au calme, il prend sa tension 3 fois le matin.
Vous lui prêtez, vous lui donnez pas.
On lui prête, pardon.
Alors Mathieu Calafiore, je rappelle que vous êtes médecin généraliste, hein, le médecin généraliste que les patients visitent régulièrement. Et vous aussi, je pense que vous avez des questions que tout le monde vous pose. Quelle est la première?
Ah, la première, celle qui revient le plus souvent, c'est « Docteur, donnez-moi quelque chose pour que je sois guéri demain.
» Ah oui, hein, pour
donc
la sonner vite.
Ou alors « Donnez-moi un traitement miracle. » Eh ben, il n'y a pas de traitement miracle qui existe.
Hein. C'est un ordre, hein, c'est pas une question.
Oui, c'est quasi un ordre. Non, faut bien rappeler aussi que ben, nous sommes des êtres humains. Et donc, notre système immunitaire, il n'y a pas de miracle. Hein. Un rhume, on ne peut pas le soigner en claquant des doigts. On ne peut pas avoir un remède de cheval, comme on demande souvent. Donc, il faut juste parfois savoir se donner le temps aussi. Mmh. Et puis, pas forcément multiplier les médicaments à prendre. Hein. On dit souvent en médecine, un rhume soigné dure une semaine et un rhume non soigné dure 8 jours. Donc, il faut savoir se donner le temps et pas forcément multiplier la prise de médicaments.
Bah, parce que là, ça sert à rien de venir vous voir, docteur Calafiore. Bah,
pour un rhume, non. Pour un, on fait beaucoup plus de choses que des rhumes et des gastro en médecine générale.
Je n'en doute pas. J'imagine qu'on vous demande aussi souvent si on peut avoir des antibiotiques.
Ah, ça, c'est la deuxième question la plus fréquente. Alors, les antibiotiques ne sont efficaces que contre les infections dues à des bactéries, donc certaines infections urinaires, des infections pulmonaires, notamment des infections rénales. Par contre, sur les virus, ça ne sert à rien. Donc un rhume, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, c'est vraiment une infection qui est liée à des virus qui sont très variés. C'est pour ça qu'on peut faire plusieurs rhumes la même année. Mais les antibiotiques sont inefficaces et chaque médicament a des effets indésirables. Et les antibiotiques ont des effets indésirables d'allergie, de réaction inflammatoire. Donc donner des antibiotiques pour rien, ça peut entraîner des pathologies différentes.
Mais on a l'impression que les antibiotiques soignent mieux, c'est totalement faux.
Non, parce qu'en fait, bien souvent, on conseille aux patients de prendre un petit peu de temps, de se soigner avec des remèdes quasi de grand-mère, donc donner des boissons chaudes à boire, donner du paracétamol aussi, ça c'est vraiment la base des infections. Et puis, les patients s'impatientent, au bout de 5-6 jours, reviennent chez le médecin, et puis certains médecins finissent par capituler et donner un antibiotique, et donc le patient guérit au bout de 2 jours, donc si vous avez bien compté, ça fait 6 plus de 8.
D'accord,
et donc ils se disent, l'antibiotique a guéri mon rhume parce que 2 jours après, j'avais plus rien.
Bon, mais d'un autre côté, moi je trouve que quand on va chez le médecin, s'il nous donne des antibiotiques, ça veut dire qu'il nous prend au sérieux.
Exactement.
On a l'impression que notre maladie, elle est prise en compte.
Alors
qu'on a l'impression que si on n'a pas d'antibiotiques, on est venu pour rien et qu'il s'en fiche.
Il y avait eu un slogan de la Sécu et une publicité d'ailleurs, t'as pas eu d'antibiotiques, t'es pas malade. Donc, alors je vous renvoie sur un site qui est utilisé par les médecins généralistes qui s'appelle antibioclic.com. C'est vraiment en fonction de toutes les pathologies, hein, vous avez des menus déroulants, en 4 ou 5 clics, vous avez l'information, savoir si vous avez besoin d'antibiotiques ou pas. Et ça répond très facilement. Vous verrez que dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin d'antibiotiques pour une bronchite, par exemple. Une bronchite, c'est souvent virale à plus de 90% des cas.
Pour une angine aussi.
Pour une angine, c'est bien souvent virale aussi. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'antibiotiques.
Bon, et puis, alors, on vous dit souvent, hein, quand on vient vous voir dans votre cabinet de médecine générale, qu'on a vu quelque chose sur Internet. Est-ce que c'est grave, docteur?
Ah, mais ça arrive très souvent aussi.
C'était le réflexe de Jessica Falour, hein,
voilà,
qui est notre invitée ce matin.
Et clairement, ce que Jessica a dit, c'est que la première des choses qu'on trouve quand on cherche une pathologie sur Internet, c'est une chose gravissime. Donc, on s'imagine avoir la pire des choses. Et c'est pour ça qu'on peut parfois atterrir aux urgences aussi, parce qu'on se dit, c'est vraiment une pathologie quasi mortelle. Donc, il faut que je sois vu par un médecin tout de suite. Faites d'abord confiance à vos professionnels de santé. Vous pouvez poser la question à votre pharmacien si votre pharmacien est disponible, mais venez voir après votre médecin généraliste. Il va pouvoir répondre à vos questions, vous aiguiller aussi sur quelles sont les sources d'informations qui sont fiables et celles qui ne le sont pas. Même, on a des sites de santé qui ont le HON code, qui est un référencement soi-disant officiel pour dire, si vous avez un site qui a le HON code, c'est un site qui est auquel vous pouvez faire confiance.
HON, c'est Health on the Net, c'est une fondation suisse un peu indépendante qui est censée labelliser. Voilà. Non, ça, c'est de l'information de qualité ou pas.
C'est pas indispensable. On peut ne pas le demander.
Mais
aussi,
il faut vérifier que l'article soit signé. Voilà. Il faut regarder la date et que ça soit signé par
un
médecin.
Vous avez des sites qui sont certifiés par ce label là et qui ne sont pas modérés, c'est-à-dire que des gens peuvent poster des conseils médicaux et c'est pas relu par un médecin. Et donc il y a ce label qui sert pas forcément à grand chose. Faut toujours faire conscience.
Le vrai problème pour moi, c'est pas Internet,
Jessica, hein.
C'est les forums en fait.
Oui.
C'est le fait que Internet est ouvert à tout le monde, tout et n'importe qui, n'importe quoi. Donc pour moi, c'est ça le vrai problème. Donc oui, c'est important de faire le tri, mais il y a aussi, et pas seulement sur la santé surtout, il y a aussi des sites très fiables, très sérieux, où ce sont les médecins
qui répondent.
Et donc là, il faut s'y fier, même si ça ne remplace pas une consultation médicale. On est là pour encourager, au contraire.
La modération de ces sites. Hein. Quand vous avez des médecins qui relisent justement tout ce qui a été posté et qui donnent leur avis en disant non, ça, ce n'est pas une information fiable, ça, c'est le plus important. Et donc, fiez-vous à ça. Si vous avez des médecins qui sont référencés sur les sites, ça peut être un gage de confiance.
C'est important aussi l'échange entre patients qui existe sur les forums. Ça peut être de l'entraide.
Pour se soutenir, oui, ça peut être de l'entraide, mais je pense que c'est une étape qui doit arriver après. Effectivement.
Une fois que le diagnostic est posé.
Une fois que.
Alors que si vous avez raison, hein, quand on tape dans le moteur de recherche sa pathologie, on tombe directement sur des forums. Et c'est là où on observe toutes ces inquiétudes, puisque ça peut conduire à des diagnostics graves que l'on lit sur Internet. On vous parle aussi beaucoup du stress, hein, docteur Calafiore.
Oui, alors souvent la question, c'est de savoir est-ce que la maladie que j'ai peut être liée au stress. D'ailleurs, il y a énormément de maladies qui peuvent être liées au stress, clairement, parce que le stress a une influence directe sur certaines pathologies comme les troubles du sommeil par exemple, mais il a aussi une influence directe sur le système immunitaire. Quand on est stressé, nos globules blancs sont un peu moins efficaces et donc on est un peu plus sensible à toutes les infections qui peuvent traîner. Et il y a certaines données qui laisseraient à penser aussi que le système immunitaire qui permet aussi au sein du corps de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises cellules, un système immunitaire moins efficace à cause du stress pourrait être prédisposant à certaines formes de cancer par exemple.
Voilà donc les questions que tout le monde se pose en allant voir son médecin généraliste. C'était passionnant, docteur Calafiore. On se retrouve dans un instant avec notre invité du jour dans cette spéciale du Grand Direct de la Santé autour des questions que tout le monde se pose. Jessica Falour, qui est l'auteur de ce livre, Ma Bible des questions santé. À tout de suite sur Europe 1.
Thomas Joubert sur Europe 1.
Le Grand Direct de 9h à midi. Europe 1.
C'est mourante que je vous annonce que c'est le Grand Direct de la Santé avec Thomas Joubert.
Ça va, Gérald, vous êtes occupé?
Non, mais justement, quand quelqu'un s'étouffe et tousse comme ça, tout le monde se tourne vers moi généralement en disant, mais fais quelque chose. Justement, quand il y a du son, quand la personne peut tousser, quand elle peut parler, c'est ce qu'on appelle une obstruction partielle. C'est-à-dire qu'il y a de l'air qui passe, il n'y a aucune urgence. Donc, il faut tousser et la situation va s'améliorer. En revanche, s'il y avait plus de son, plus de lumière, plus de tout possible, c'est là où il faut faire les manœuvres et notamment 5 grandes claques dans le dos. Mais là, c'était pas le cas. C'était juste une petite gorgée de travers.
Juste dans le dos, les claques. Hein.
Juste dans le dos. Et puis la méthode d'Emlich, mais ça, on en avait parlé.
Jessica Falour, notre invitée ce matin dans le Grand Direct de la Santé pour une spéciale autour des questions santé que tout le monde se pose. Alors Jessica, il y a aussi les questions que l'on n'ose pas poser à son médecin.
Exactement, quand on connaît parfois trop bien son médecin ou que le médecin connaît toute la famille, eh ben on fait le tri. Hein, vous devez le voir souvent.
Ça arrive très souvent
cabinet,
et puis il y a les motifs de consultation qu'on appelle poignée de porte. Hein, c'est le patient qui vient pour un motif banal, un petit rhume, et puis c'est pas son habitude d'habitude. d'habitude, il soigne tout seul. Et puis, quand on le raccompagne à la sortie du bureau de consultation, met la main sur la poignée de porte, et là, c'est « Ah, docteur, en fait, je voulais vous parler d'eux. » Et puis,
D'accord, il n'osait pas vous en parler jusqu'à la sortie du cabinet.
Et ça peut être sur des sujets hyper variés, hein, par exemple. Évidemment, tout ce qui est dysfonction érectile, les hémorroïdes, parce qu'on se dit « Mais je vais quand même pas montrer mon derrière au médecin que je connais depuis 20 ans, etc. » C'est impossible.
Et pourtant, vous montrez bien vos dents au dentiste.
Mais oui, mais c'est pas tout à fait la même chose.
C'est pareil. Vos dents, vous nous les montrez aussi, là, ce matin, Thomas.
Et puis, il y a des questions aussi, mais tout ce qui touche à l'intime, hein, genre, je fais pipi 30 fois par jour, on a cette question souvent sur le site. C'est difficile d'en parler à son médecin parce qu'on se dit, mais comment il va vérifier? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va falloir que je lui montre?
Certaines mycoses aussi, dans les mycoses des plis, par exemple, les patients n'osent pas parce qu'ils doivent se mettre en sous-vêtements pour montrer les mycoses des plis, et puis ça les
met mal à l'aise. Rassurez tous les patients qui nous écoutent, c'est votre métier.
Ah bah, c'est notre métier. On a vu des centaines de patients.
Félicitations, docteur.
merci. Non, c'est vraiment notre métier. On n'est pas là pour juger le patient. On est là pour justement être au service de leur santé, donc les soigner, faire en sorte qu'ils aillent mieux. Donc, au contraire, si vous avez un endroit où vous pouvez tout dire, tout montrer, entre guillemets, c'est vraiment le cabinet de votre médecin généraliste. Et en plus, ce qui se passe dans le cabinet ne sort pas du cabinet.
Oui, il y a le secret médical, effectivement.
Le secret médical.
Mais ça, c'est quelque chose qui s'est perdu. C'est-à-dire qu'avant, le réflexe était de dire déshabillez-vous. C'est le fameux déshabillez-vous quand vous rentrez. C'est quelque chose qui n'est plus réflexe et aussi habituel. Exactement. Je sens que Jessica lance un appel à tous les médecins.
Mais je ne comprends pas.
Déshabillez-vous.
Mais c'est vrai, comment ça se fait, ça? C'est hyper rare maintenant qu'on nous demande.
Il y a un problème de temps évident. Parce que c'est vrai que les consultations, parfois, il faut aller vite parce qu'il y a beaucoup de monde en salle d'attente, que ce soit aux urgences, que ce soit au cabinet de médecine générale. Mais c'est important de faire un point avec son médecin, notamment traitant, qui est là pour vous examiner de A à Z. Au moins une fois de temps en temps, il faut que vous déshabillez parce que ça permet d'aller regarder votre peau, les grains de beauté, de vous examiner en prenant la tension artérielle, de regarder les troubles de statique, de colonne vertébrale. Surtout, et ça se fait quand on est déshabillé.
Surtout dans certaines pathologies comme le diabète, par exemple, où on a besoin de voir comment se passe le système cutané, donc comment va la peau, comment vont les pieds, c'est des choses toutes bêtes. Mais
comprenez aussi la pudeur de certains patients.
Bien sûr, c'est pour ça aussi.
Et puis il y a eu aussi plein d'histoires de dérapage aussi qu'on a entendu dans les médias.
Malheureusement, il y a des brebis galeuses partout, mais il faut se dire qu'en médecine générale, on respecte peut-être un petit peu plus l'intimité. Parce que on est en ville, parce que les gens viennent en civil, etc. Et donc, on les met plus forcément en petite tenue tout le temps. Mais c'est pas parce qu'on ne les met plus en petite tenue tout le temps que on doit avoir peur de le faire quand c'est nécessaire. On va pas se mettre en petite tenue pour une angine. Mais par contre, quand il y a un problème qui nécessite de voir les plis, de voir les organes génitaux, il faut pouvoir
le faire.
Même
les grains de beauté, par exemple, les grains de beauté, on doit être intégralement nu. Puisque vous devez aussi vérifier les parties très intimes.
Tout à fait.
Alors, Isabelle Quenin, vous avez repéré dans le livre de Jessica Falour, les questions que tout le monde se pose en matière de bien-être. Et ça tourne aussi parfois aussi au niveau sexuel.
Ça, je savais bien que c'était sûrement que ça allait tomber l'orgasme. Ah oui, alors moi j'ai beaucoup aimé tout ce chapitre-là parce que ça part d'une étude réalisée à l'université Queen de Belfast qui a montré que 3 orgasmes par semaine réduiraient de 50% les risques cardiovasculaires. Ça muscle le cœur, ça améliore la circulation sanguine et c'est pas tout. En plus, puisqu'on parlait du rôle du stress qui parfois est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, donc on dit elle est stressée donc c'est normal, elle a des problèmes. Faire l'amour réduit le stress, améliore la qualité du sommeil, renforce le système immunitaire et permettrait même d'éviter les rhumes d'hiver dont on parlait tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça fonctionne. Déjà, crapuler, ça fonctionne comme un antidouleur. L'orgasme correspondrait à l'absorption de 2 aspirines. Donc franchement, moi je trouve que comme médicament, c'est vachement plus sympa à faire.
Remboursé par la Sécu.
Donc ça marche pas, j'ai mal à la patte ce soir, j'ai mal à la tête.
Jessica nous apprend que c'est une sorte de pluie de neurotransmetteurs. Alors il y a de la dopamine, la sérotonine, la mélatonine, la vasopressine qui déferle dans notre boîte crânienne. On se sent vachement bien. Le taux de testostérone dans le sang, y compris pour les femmes, est renforcé. Donc après l'orgasme, il y a ce retour au calme, et heureusement, qui conduit à la libération des endorphines. Et là, ça apaise les tensions. Vous savez, on dit toujours la réconciliation sur l'oreiller. Eh ben oui, ce sont les responsables de ça, et tant mieux, elles jouent leur rôle. Ce sont les endorphines qui vont apaiser un petit peu les crises qui existent dans le couple et qui donc la réconciliation sur l'oreiller, c'est médical, c'est prouvé
et ça
marche.
Bon pour la santé.
Est-ce que vous saviez en plus qu'en caressant les seins de votre compagne, donc d'où l'importance, Sophie, des préliminaires, en caressant les seins de votre compagne, vous la protégez efficacement du cancer du sein?
Complètement.
Parce que ça va libérer une hormone, là aussi, c'est l'ocytocine, et l'ocytocine roue joue un rôle que l'on connaît dans l'allaitement et tout, mais ça joue un rôle prouvé dans le rôle de la prévention du cancer du sein. Donc exactement. En fait, vous n'avez plus un époux, une épouse, un compagnon, une compagne. Vous avez un médecin à domicile.
C'est ça.
Et c'est bien qu'il vous aide.
Vous pouvez le consulter en permanence. Autre question. Est-ce que je peux prendre l'avion après une chirurgie esthétique?
Alors ça, c'est très compliqué parce que on a pas mal changé. Avant, quand on rentrait à l'hôpital ou à la clinique, on avait un délai post-opératoire qui était beaucoup plus long. Donc on avait le temps de se remettre à peu près bien, on avait le temps, 3, 4, 5 jours pour récupérer un peu des forces et tout. Alors que maintenant, on va de plus en plus vers de la chirurgie ambulatoire. S'il n'y a pas de saignement, on peut vous renvoyer chez vous, bon, sous contrôle bien sûr. Donc de plus en plus, on raccourcit le délai en disant, mais vous vous reposerez très bien chez vous. Donc dans l'idée du patient, ben, si je me repose très très bien chez moi, pourquoi je ne peux pas me reposer très très bien au bord de la mer, à l'étranger, je vais prendre des jours de vacances. Et se pose le problème donc de l'avion. Par exemple, après une opération, je ne sais pas si vous vous souvenez de Johnny Hallyday, son opération de la hanche, il n'a pas respecté ce qu'on lui avait dit de faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait, il a dit « je pars et je ferai la visite de suivi post-opératoire là-bas, États-Unis », et moyennant quoi, il a eu un grave problème dans l'avion. Donc de toute façon, et là je pense que le livre il est plein de bon sens, c'est de dire quoi qu'il se passe, si vous repartez chez vous, vous attendez avant de faire des projets pour les vacances ou de partir ailleurs, qu'il y ait cette fameuse visite de suivi post-opératoire qui permet de déceler s'il y a des problèmes. Et puis après, ce qui est très bien fait dans le livre, c'est suivant les opérations que vous avez subies, on vous dit clairement, bah là c'est au moins une semaine, là c'est au moins 15 jours. Par exemple, les opérations des yeux, on opère à toute vitesse, maintenant on se dit mais ça c'est hyper bénin. Et ben vous avez, et c'est dans le livre, des cas de cécité qui ont eu lieu à la suite donc de
respecter les délais post-opératoires.
Et
moi je parlais de chirurgie esthétique avec cette image que les prothèses en silicone vont exploser dans l'avion, mais c'est faux.
Mais tu lis trop mon policier.
Ça doit être ça, très bien. Qu'est-ce qu'on a encore dans les questions que tout le monde se pose? La conservation des aliments par exemple?
La conservation des aliments, c'est intéressant parce que vous apprenez, nous on nous a toujours dit, bon, tant que ça pue pas et que c'est pas moche, tu peux manger. En gros, c'était quelque part...
C'est un bon principe.
Bah oui, c'est un bon principe parce qu'on se disait...
Sûr, quand ça pue et que c'est moche, faut pas manger, mais après il y a d'autres précautions à prendre avant.
Et lorsque l'on voit, et dans le livre c'est très bien expliqué, on vous explique que même si l'aspect est toujours, il y a toujours la même appétence et que ça nous décourage pas, et ben, il peut quand même y avoir des germes à l'intérieur. Donc il y a un petit tableau qui est bien fait où on vous explique le poisson, la viande hachée, surtout tout ce qui rentre dans notre alimentation et qui passe par le réfrigérateur. Donc là il y a un petit tableau, et surtout, vous savez, on dit toujours oui, pour être dans l'écologie et tout ça, il faut absolument pas mettre des aliments chauds dans le frigo. Donc là on dit ben, faut les laisser refroidir dehors. Ouais. Mais là on nous apprend que au bout de 2 heures où ça refroidit à l'extérieur, ça peut être dangereux. Donc vous laissez refroidir les aliments avant de les mettre dans le frigo, ok, dans une boîte hermétique encore mieux, mais surtout au bout de 2 heures, vous les mettez dans le frigo, même s'ils sont encore tièdes.
Jessica Fadlour, quel est le thème qui vous a le plus intéressé dans le livre? La nutrition, la gynécologie par exemple, la dermatologie?
Ah, c'est difficile, c'est une question horrible ça, Thomas. Il y a 40 spécialités, donc c'est compliqué. Moi j'aime bien tout ce qui est proctologie.
Sexologie?
Il y a
un chapitre concernant
sexo, j'ai déjà fait un livre là-dessus, donc c'est bon.
Merci beaucoup Jessica Fallour. Ma Bible des questions santé, c'est nos éditions.
Merci
Le Duc, merci d'avoir été avec nous. Docteur Gérald Kierzek, docteur Mathieu Calafiore, Isabelle Quenin, Cazobon, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end. Sophie, on se retrouve lundi à 9h.
Oui, absolument.
Passez un excellent week-end et à lundi.
À lundi, c'était Thomas Joubert.